Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Dans notre cœur afin que nous puissions recevoir la révélation qui correspond à la situation du moment dans notre vie, la révélation qui correspond à ce que nous vivons personnellement afin que nous soyons révolutionnés, transformés, restaurés, libérés, relevés et repropulsés dans une nouvelle dimension de ta connaissance. Que ton nom soit glorifié, Dieu vivant d'Israël, dans le nom de Jésus. Nous avons tous ainsi prié et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour sa présence. Merci au groupe Louange pour cette belle prestation dans la présence de Dieu. Je disais que notre frère qui officie a déjà quasiment donné la pensée du message. Dieu ce matin veut nous sortir de la boue, des problèmes, des difficultés, du sable mouvant dans lequel nous sommes. Et il nous tend la main au travers de son instrument ce matin. Votre humble serviteur, afin que nous puissions saisir un message de foi qui va révolutionner nos vies. Dimanche dernier, Dieu nous a parlé de Rehoboth, Dieu te met au large. Rehoboth, Dieu te met au large. Et nous avons compris que cette année, en cette nouvelle saison, Dieu ouvre une porte pour nous afin de nous propulser au large. Et ce matin, Dieu veut continuer à nous entretenir dans cette pensée afin de pouvoir faire grandir notre foi dans l'espérance de ce qu'il nous réserve en cette saison académique 2009-2010. Dieu a chaque saison a quelque chose pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui le croit qu'à chaque saison, Dieu a quelque chose pour nous. Voyez-vous, quand vient la saison des figues, eh bien, la saison des figues vient avec des figues. Alléluia. Donc, les figuiers produisent des figues. Amen, amen. Et la Bible déclare que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Et qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu crée les temps. Dieu crée les saisons. Mais dans chaque saison, il y a quelque chose qui vient. Parce que Dieu, sa responsabilité, c'est de créer les saisons. Et quand il crée les saisons, après le reste, ce n'est plus lui qui fait. Parce que chaque saison se rend responsable d'amener vers les hommes ce qui correspond à sa saison. Alléluia. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu au commencement a tout créé. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé la mer, il a créé la forêt, il a créé les arbres, il a créé les animaux, les oiseaux des champs, il a créé les poissons de la mer, il a créé les hommes. Il a tout créé. Il a créé les luminaires, il a créé le jour et la nuit. Il a tout créé. Alléluia. Dieu aussi a créé les saisons pour marquer les temps et les époques. Et Dieu a déjà tout créé. Et il a établi un système de fonctionnement. De telle sorte qu'en fait, il n'a plus besoin chaque jour d'appuyer sur un bouton pour que la chose fonctionne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le système que Dieu a établi fonctionne de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voyez-vous, c'est comme ici, par exemple, en France, il y a un système dans tout domaine. Il y a un système économique, il y a un système politique, il y a un système social, il y a un système éducatif. Comme dans tous les pays, Alléluia. Donc, les législateurs, lorsqu'ils ont établi la législation, ils ont établi les règlements, ils ont établi les systèmes, ils n'ont plus besoin chaque jour d'appuyer sur un bouton pour que le système marche. Alléluia. Les dépositaires, les gens réellement qui ont conçu cela, ok, ceux qui ont établi les lois, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier, au niveau éducatif, au niveau social, n'ont plus besoin chaque jour de toucher pour que les lois marchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière, Dieu, dans son royaume, a mis en place des lois. Il a mis en place un système de fonctionnement dans son royaume. Il a mis en place beaucoup de choses que je viens de citer. Il a tout créé, y compris les saisons. Alléluia. Et donc Dieu, après avoir tout créé, la Bible déclare que le septième jour, il s'est reposé. Et nulle part dans la Bible, il nous a encore montré que Dieu s'est relevé pour venir encore créer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le système de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Celui des hommes, on peut le réviser, parce que les lois, on les révise. Périodiquement, on peut le réviser. Mais le système de Dieu n'est point un système humain pour être révisé. C'est pourquoi il déclare qu'il n'est point un homme pour se repentir. Alléluia! Le système de Dieu n'est point un système humain. C'est un système divin. C'est un système fiable. Nous, les hommes, nous faisons confiance au système humain. Nous faisons confiance à la CAF. N'est-ce pas? Alléluia! Et nous savons effectivement que chaque fin du mois, la CAF doit tomber. Et quand la CAF ne tombe pas, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer pour le loyer? Alléluia! Parce que nous avons confiance au système humain. Mais la CAF n'a pas besoin chaque jour de venir appuyer sur un bouton pour que le système marche. Le système a été établi et il fonctionne tout seul. Alléluia! La même manière, vous savez, que le système fonctionne tout seul, ceux qui veulent essayer d'échapper au système, contrôler le système les rattrape toujours et il les rattrape tout seul. Alléluia! Ceux qui ont établi le code de la route, il ne faut pas brûler les feux rouges. Même si tu brûles le feu rouge, on ne t'attrape pas. Mais un jour, le système va te rattraper. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu brûles un feu rouge, une fois, on ne t'attrape pas. Deux fois, il n'y a pas de flic. Trois fois, tu te diras, oh, finalement, en réalité, il suffit de savoir s'y faire. Il suffit de savoir s'y prendre. Et quand tu rentres dans cette démarche, tu es en train de construire en toi une certaine mentalité, une certaine structure intérieure, sans que tu te rendes compte. Et tu es en train d'instaurer en toi une certaine démarche, un certain comportement, un certain système de pensée. Et comme tu vas t'y habituer, un jour à l'autre, le système va te rattraper. Parce que tu feras toujours comme ça. Alléluia. Et donc, il est important que nous puissions comprendre que Dieu aussi a un système. Il a un mode de pensée. Il a un mode de fonctionnement. Et il veut aligner nos pensées à son mode de pensée. Il veut aligner notre système de pensée à son système de pensée à lui. Pour que nous puissions être reprogrammés afin de marcher comme Dieu, lui, veut que nous puissions marcher. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons des comportements qui sont contraires à la pensée de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous reprogrammer. Alléluia. Je suis en train de vous parler du système de Dieu qui est mis en place. Et donc, Dieu a créé les saisons. Elles sont là, elles existent. Qu'est-ce que les saisons font? Il n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton chaque jour pour que les saisons viennent. Le système fonctionne de lui-même. Quand c'est la saison de l'été arrive. Alléluia. Quand c'est l'automne, l'automne arrive. Alléluia. Quand c'est l'hiver, l'hiver arrive. Quand c'est le printemps arrive. Vous commencez à voir les fleurs apparaître. Alléluia. Vous commencez à sentir le foin. Le rime de foin. Alléluia. C'est le printemps. Mais la Bible nous dit que non seulement Dieu a créé les saisons, mais dans chaque saison, il y a quelque chose qui caractérise la saison. Quand c'est l'été, on sent que c'est la chaleur. Quand c'est le printemps, les fleurs apparaissent. Quand c'est l'hiver, c'est le froid qui arrive. Alléluia. Et la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a une saison pour toutes choses. La traduction hébraïque, c'est-à-dire que la traduction hébreu de ce texte de ce texte dit, en fait, il y a une saison. Hein? Le second dit, il y a un temps pour toutes choses. Mais quand vous lisez dans le texte hébreu, il dit, il y a une saison. Il y a une saison pour toutes choses. Et dans une autre version, il est spécifié que il y a quelque chose qui correspond à chaque saison. Et chaque saison amène ce qu'il doit amener. quand c'est la saison, par exemple, des raisins, eh bien, les raisins viennent, on cueille les raisins. Et Dieu est en train de nous faire comprendre que depuis un temps, en cette nouvelle année, il a amené vers nous une saison sur le plan spirituel. Et dans cette saison, il y a des choses qu'il a prévues pour nous. Et donc, le message qu'il apporte à chaque saison correspond au contenu de cette saison, correspond à la provision qu'il a pour son peuple dans cette saison. Parce qu'il crée les saisons, mais chaque saison apporte sa provision. Alléluia! De la même manière que la saison des figues apporte les figues, de la même manière que la saison des raisins apporte les raisins, de la même manière, les saisons que Dieu crée pour nous apportent les choses qui correspondent à nos vies, à nos besoins. Et donc, chaque saison apporte sa provision. C'est pourquoi il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque saison correspond une provision. Et nous sommes dans une saison de grâce. Nous sommes dans une saison de faveur. Par rapport à les situations que chacun d'entre nous certainement traverse, Dieu nous parle depuis un temps. Et il nous équipe. Il nous parle de l'onction, des vertus de l'onction. Il nous parle de l'importance d'être loin. Il nous parle de l'importance d'avoir une pensée, un objectif, une vision. Il nous parle de l'importance de comprendre ce qu'il veut faire avec nous. Il nous dit qu'en fait, il veut nous amener au large. Et il nous dit qu'en fait, il a prévu pour nous des puits. Et ces puits-là, il ne sera plus trouvé querelle. Ce sont des puits de provision, des puits d'abondance. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, tu as simplement besoin de comprendre le message de Dieu pour le moment. Tu as seulement besoin de comprendre le message de Dieu pour cette saison et de capter le message avec la main de la foi, de la saisir. Comme David a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il ne s'agissait pas ici de tomber dans l'adultère. Non, quand il parle de péché, il ne parle pas forcément de mensonge. Non, mais la Bible déclare, et dans l'hébreu il est dit, le mot péché veut simplement dire passer à côté de Dieu. Donc quand David dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi », il veut simplement dire à Dieu « Seigneur, je saisis le message de ma saison. Alléluia. Je saisis ce message, c'est pour moi. Alléluia. Je dis Amen, Alléluia. » Chaque fois qu'une parole est libérée, je saisis cette parole, elle correspond à ce qui est dans mon cœur, elle correspond aux besoins de mon cœur. Je saisis cette parole, je la sers dans mon cœur, elle devient pour moi une parole de foi sur laquelle je peux bâtir ma confiance à l'Éternel. Je la saisis cette parole, je la sers dans mon cœur afin de ne point pécher afin de ne point passer à côté de ma destinée. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Et ce matin, Dieu a une parole pour cette saison encore pour toi. Il veut t'amener au large. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. D'abord, on va commencer par le livre de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Nous allons lire l'histoire de la pêche miraculeuse. Dis à ton frère, il y a une parole pour ta saison ce matin. Sois concentré. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Quelles que soient les raisons, alléluia, qui t'ont amené ici, quelles que soient tes motivations, quel que soit le problème que tu traverses aujourd'hui, tout le monde a des problèmes, voyez-vous. Même les païens ont des problèmes, voyez-vous. Donc la solution n'est pas de repartir dans le monde. Parce que si tu repars dans le monde, tu vas encore trouver des problèmes. Alléluia. Et le fait de venir à l'église, il ne s'agit pas en fait de fuir les problèmes. Parce que Dieu ne fabrique pas, ne crée pas de fouillards. Voyez-vous? Dieu n'est pas. Vous savez, dans le monde, on dit qu'il y a quatre comportements qu'il faut développer. Et il y a trois qu'il faut éviter, il y a un qu'il faut développer. Voyez-vous, dans les quatre, il y a un comportement qu'on appelle la fuite. Il y a un autre qu'on appelle l'agressivité, un autre qu'on appelle la manipulation. On dit les trois-là, il faut éviter. Même les gens du monde comprennent qu'il faut éviter la manipulation, il faut éviter l'agressivité, il faut éviter la fuite. Par contre, il y a un autre concept qu'ils appellent l'assertivité. En fait, c'est simplement ce que la Bible appelle la confiance en l'Éternel. Et ils disent que c'est un bouclier. Mais la Bible le dit, non? Le bouclier de la foi. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia! Pourquoi les gens du monde comprennent ces choses et pourquoi nous, les chrétiens, ne comprenons pas? Sauf qu'en fait, eux, leur foi n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que notre foi, c'est Christ qui est le consommateur. C'est Christ qui est l'auteur de notre foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors que eux, leur foi est fabriquée. Voilà pourquoi, en fait, elle ressemble à une maison qui est bâtie sur du sable. Elle ne tient pas longtemps. Quand vient l'épreuve, les païens paniquent. Oh, grippe A, ça y est, ça passe dans les médias. Tout le monde est paniqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à faire des prévisions. On se pose des questions. Et au mois d'août, on commençait à prévoir une catastrophe en septembre. On a commencé à dire que comment ça va se passer les enfants à l'école et partout dans les entreprises à la rentrée, il y a eu des conférences, il y a eu des réunions sur la grippe A. On a mis en place des mesures de prévention, des mesures de protection, au point que dans notre entreprise, on n'a même plus le droit de se faire un bisou. On n'a plus le droit de se serrer la main. Dans d'autres entreprises ou établissements scolaires, les enfants n'ont plus le droit de se faire des bisous. Alors, ils ont mis en place des boîtes à l'intérieur desquelles il y a des petits cœurs. Donc, quand les enfants veulent se faire un bisou, au lieu de se serrer la main ou se faire un bisou, en fait, ils ouvrent, ils prennent un petit cœur et ils donnent à quelqu'un. Oh, c'est mignon, n'est-ce pas? Mais c'est un manque de foi. Mais parce que le peuple vit dans la crainte. Alors maintenant, ils commencent à dire, qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre? Comme septembre est passé, ils ont fait des sondages, ils ont posé la question à 80% des Français, ils ont répondu en disant, la grippe A en fait, on se rend compte que la grippe A, finalement, ce n'est qu'une épidémie comme toutes les autres épidémies, donc on va voir ce qui va arriver. Alors qu'est-ce qui va se passer en octobre, qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde est là. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Les 80% des Français, ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable ne cesse de fabriquer des choses pour effrayer le peuple. Il a lancé la crise économique. Il a orchestré la crise économique parce que, voyez-vous, la crise économique a été orchestrée, mais bien orchestrée par le diable et ses agents afin de semer la terreur dans le cœur de l'homme pour que l'homme soit effrayé, pour que l'homme ait peur, pour que l'homme manque de confiance, l'homme manque de foi et qu'il soit capable d'accepter tout et n'importe quoi. Alors, il prépare l'homme psychologiquement. Vous n'avez pas encore vu ça? Avant d'acheter une voiture, avant qu'elle apparaisse sur le marché, elle existait déjà. Ils ont créé ça. Ils ont fait apparaître la voiture sous forme de jouet. Et quand votre enfant est parti manger au McDo, il a dit, « Papa, j'ai eu un jouet, c'est une belle voiture, j'aime ça cette voiture. » Avec une forme bizarre, etc. Tu regardes la voiture, tu dis, « Mais elle n'existe pas cette voiture en réalité. Ce n'est qu'un jouet. » D'accord, ce n'est qu'un jouet pour le moment. Mais attends dans 10, 15 ans, 20 ans, d'ici 2025, cette voiture, tu la verras circuler. Et comme tu as vu ça dans les jouets de ton fils, comme tu as même joué avec ça avec ton fils, en fait, ça a préparé ta psychologie. Dans ton subconscient, tu as accepté la voiture. En fait, psychologiquement, tu étais un consommateur potentiel. Donc, lorsque la voiture va apparaître, j'ai un automobiliste, quand tu vas voir la voiture, il y a un désir qui va naître en toi. Tu vas dire, cette voiture, waouh, elle est belle, je la veux. Tu as été préparé. Et beaucoup de choses se passent comme ça dans le monde, dans tous les domaines. Surtout dans nos sociétés de consommation, l'homme est conditionné. L'homme est conditionné émotionnellement, il est conditionné mentalement, il est conditionné spirituellement, il est conditionné dans la pensée, il est conditionné. Et le diable a orchestré avec ses agents la crise économique dans le seul but de préparer les hommes à rentrer dans ce qu'il va leur proposer plus tard. Et quand le monde verra qu'effectivement ils ne savent plus quoi faire, l'argent, ça devient difficile. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comme un collègue me disait que vraiment la crise, c'est fort. Je dis, attendez, en réalité, entre toi et moi, honnêtement parlant, oublie un peu les médias, oublie un peu toute l'actualité. Quand tu fais le point sur tes finances, qu'est-ce qui a changé? Honnêtement parlant. Quand tu fais le point sur ton mode de vie. Et ils se sont dit, oui, c'est vrai en plus. J'ai toujours le même salaire, d'accord, j'ai toujours les mêmes dépenses. En réalité, mais enfin, qu'est-ce qui a changé? Donc, ce sont les informations autour qui t'amènent à croire que la vie devient difficile. Et tu es tellement conditionné que chaque jour, tu dis, oh, la crise. Ça vient de la crise. Mais est-ce que tu es en crise toi-même? Non, mais fais le point, honnêtement. Est-ce que tu es en crise dans ta maison? Parce que la crise, c'est d'abord avant tout une crise de valeurs. Quand tes valeurs sont détruites, alors tu ressens la crise physique, tu ressens la crise humaine. Mais si dans tes valeurs, tu n'es pas en crise, tu ne ressentiras pas la crise humainement parlant. Oh, que quelqu'un donne gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on doit se poser la question, est-ce réellement une crise financière ou une crise de la foi? Parce que pour quelqu'un qui a réellement la foi, il n'y a pas de crise pour lui. Et le diable prépare le monde, l'humanité, à un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, Jean, dans l'île de Patmos, l'a prédit dans les temps apocalyptiques. Et il a dit qu'il arriverait un temps où personne ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête. Et je vous assure, il parle bien d'acheter et de vendre. Il parle d'un pouvoir d'achat. Alléluia. Il parle d'un pouvoir d'achat ici. Personne ne pourra plus ni acheter ni vendre. Donc, pour avoir cette sécurité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la marque. Et cette marque, c'est la marque de la bête. Et il dit que quelqu'un qui a de l'intelligence calcule ici le chiffre de la bête. Car son chiffre est un chiffre d'homme. Et son chiffre, c'est 666. Donc le diable installe un nouvel ordre mondial financier, économique. J'ai bien aimé la déclaration du président du Bénin. Lorsque les grandes puissances se sont retrouvées au G20, hein, c'est ça? Au G21. Hein? 24. Les économistes. G24. Lorsque un homme politique, je ne vais pas citer son nom maintenant, il déclare, il dit la crise financière, texto, il dit la crise financière, c'est une situation qui va nous permettre d'installer un nouvel ordre mondial. Et le président du Bénin, quand il prend la parole, c'est vrai que c'est un chrétien. Il savait en face de qui il était. Il dit, c'est bien d'installer un nouvel ordre mondial financier. Mais maintenant, il est temps que nous puissions aussi commencer à réfléchir à un nouvel ordre spirituel. Waouh! Alléluia! Et les chrétiens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réfléchir à un nouvel ordre spirituel. Nous sommes en guerre, c'est la guerre des royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Quand le monde crie, crise économique, nous, la parole de Dieu nous enseigne provision économique. Lorsqu'en Égypte, le peuple a commencé à paniquer jusqu'au roi et que le roi commençait à être effrayé par rapport à la crise, la famine qui devait arriver, pendant que le peuple était dans la peur, Dieu envoie un message d'espérance. Pendant que le monde criait crise, Dieu envoie provision. Et il fait lever une voix prophétique. Joseph parle. Et ce matin, Dieu veut te parler. Quelles que soient les crises que tu traverses dans ta vie, Dieu veut te parler. Il veut t'apporter un message de foi pour te sortir de ta crise. En fait, ce n'est pas ta crise. De la crise. Et il veut te mener au large. Dis à ton frère, Dieu veut te mener au large. Nous sommes dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Simon, avance en pleine eau. Et Dieu te dit ce matin, David, avance en pleine eau. » Et Dieu te dit ce matin, Jean-Yves, avance en pleine eau. Carmen, avance en pleine eau. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai résolu, dans mon conseil divin, de te mener au large. Alors avance maintenant. Le problème n'est plus à mon niveau. J'ai prévu pour toi des puits. J'ai prévu pour toi une provision. Maintenant, toi, avance. Avance en pleine eau et jette ton filet au large. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Voici le problème qu'avait Simon-Pierre. De toute l'histoire de Simon-Pierre, quand vous lisez son histoire, à chaque fois, il avait le même problème. Quand Jésus dit à ses disciples, il dit, « Voici maintenant l'heure arrive, je vais mourir. » Il dit, « Non, Seigneur, tu ne mourras pas. Ne dis pas ça, Seigneur, ce n'est pas normal. Un homme de Dieu ou un comme toi ne doit pas parler comme ça. Tu es le fils de Dieu, tu es envoyé par Dieu. Non, 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 non. Mais ce que Simon-Pierre disait, c'était bien, c'était légitime. Mais qu'est-ce que Jésus dit à Simon? Il dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Dieu veut faire beaucoup de choses dans nos vies. Dieu veut faire de grandes choses avec nous dans notre vie, dans notre destinée. Il a prévu de nous mener au large. Mais quand vous lisez dans Colossiens, chapitre 1,
au verset 21, il est écrit ceci, que nous-mêmes, nous devenons ennemis par nos propres pensées. Nous nous constituons ennemis de Dieu et ennemis de nous-mêmes par nos propres pensées et par nos mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et humainement parlant, nous sommes tous comme Pierre ce matin. Même en face du Seigneur, notre homme naturel revient toujours au galop. Pierre était en face de Jésus. Mais cela n'a pas empêché d'avoir des mauvaises pensées. Je veux te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne peux plus avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que tu es collaborateur, que tu sers Dieu, que tu ne peux plus avoir de mauvaises pensées. Nous sommes tous, chaque jour, engagés à un grand combat. C'est le combat de nos pensées. Et l'arme la plus fatale que le diable utilise pour empêcher l'homme de rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, c'est la pensée humaine. Dieu dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet au large. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il trouve un paralytique qui est là, allongé depuis 38 ans. Il pose la question au paralytique. Il dit, qu'est-ce que tu veux en réalité? Le paralytique lui dit, Seigneur, il n'y a personne pour me prendre et me jeter dans l'eau quand l'ange vient agiter l'eau. Dieu a un plan pour toi. Toi, tu restes encore dans ta perspective humaine. Voilà le combat qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de prophéties ont été libérées sur ta vie. Dieu a fait des promesses pour toi. Ce n'est plus le problème de Dieu. Il te l'a dit encore dimanche dernier. Il est prêt à te mener au large. Le problème, ce n'est pas sa provision. Le problème, ce n'est pas sa capacité à le faire. Mais Dieu est confronté à un problème dans ta vie. Voyez-vous, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est capable de renverser tes pensées et de passer outre. Mais en même temps, ce Dieu qui est tout puissant est impuissant face à quelque chose. Oh, alléluia. Il est impuissant face à quelque chose. Il est tellement respectueux de ta personne, de ta volonté qu'il t'a donné de gérer toi-même depuis qu'il t'a créé dans le jardin d'Éden, comme c'est un Dieu qui respecte sa parole, qui respecte ses lois, alors face à la situation, il est impuissant. Alléluia. Et donc, il y a les choses que Dieu pourra faire pour toi. Sa responsabilité, c'est de pouvoir amener vers toi les saisons. Mais il y a des choses que toi-même, tu dois faire. Parce que Dieu ne peut rien contre ta propre volonté. Et voici le problème de Pierre. Jésus était capable de libérer une onction sur sa vie. Et à l'instant, les poissons venaient. Et puis, Pierre faisait une pêche miraculeuse. Et le problème était réglé. Ou encore, il était capable de faire comme dans le désert avec Moïse. Ouvrir le ciel et faire descendre les poissons. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pierre, avance en pleine eau. Jette ton filet. Comme il a dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Il dit, avance en pleine eau. Jette ton filet. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous avons tellement de mauvaises pensées au-dedans de nous, comme Pierre, tellement de choses dans nos cœurs, que ces choses constituent un barrage entre l'action de Dieu dans notre vie et la situation que nous vivons pour le moment. Mais ce matin, Dieu veut déplacer tes limitations. Ce matin, Dieu veut bousculer tes raisonnements. La Bible déclare que nous sommes ennemis par nos propres pensées. Il y a au-dedans de nous des raisonnements humains. Il y a au-dedans de nous, en fait, des pensées négatives, des sentiments négatifs, des émotions négatives, des conceptions erronées, des traditions et même des valeurs culturelles qui s'érigent contre la connaissance de Dieu. Mais la Bible déclare que nous devons nous-mêmes prendre la parole de Dieu et travailler de sorte que nous puissions ramener en nous toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Nous devons ramener nos pensées humaines à l'obéissance à la parole de Christ. C'est pour cela que quand Pierre a compris cela, Pierre tout de suite il s'est dit, non pas par mes propres forces, non pas par mes propres capacités, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, alléluia! Et c'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons des mauvaises pensées. Nous sommes conscients que les mauvaises pensées sont un obstacle pour nous à rentrer dans les choses que Dieu a prévues pendant la saison. Mais nous ne faisons aucun effort. Bien sûr, humainement, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais la Bible nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, à cause de cela maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété, à la piété, la vertu, la patience, etc., etc., etc. Nous devons faire tous nos efforts pour se lever le matin et maintenir notre programme de culte personnel. Nous devons faire tous nos efforts pour traiter durement notre corps, de sorte que lorsque le sommeil nous attaque et que Dieu veut que nous puissions prier, nous puissions nous faire violence, nous lever et commencer à prier et que la forteresse, la barrière, la fatigue du sommeil soit renversée au nom de Jésus et que nous puissions entrer dans ce que Dieu nous réserve, que nous puissions maintenant aller au large. Et ça, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire pour toi. Dieu, il est là. Il est prêt à te donner la pêche miraculeuse. Tes filets sont prêts à accueillir une grande quantité de poissons. Le problème, c'est que tu dois faire tous tes efforts pour avancer en pleine eau et jeter ton filet. Remarquez que quand Jésus a guéri les malades, il n'est pas venu comme ça par un bâton magique et puis les malades étaient guéris. Ou qu'il passe juste comme ça, les malades sont guéris. Il pouvait le faire, il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? À chaque fois qu'il guérit un malade, il pose une question et après il donne un ordre au malade. Prends ton lit et marche. Et tends ta main. Lève-toi. Pourquoi? Parce que même s'il est tout puissant, il est conscient qu'il ne peut pas agir sans qu'il y ait coopération entre l'homme et lui. Tu as besoin de coopérer avec Dieu. La foi, c'est la coopération avec Dieu. S'il n'y a pas de coopération, Dieu est impuissant face à ta situation. Il peut le faire de temps en temps par grâce pour t'aider. Mais Dieu n'a pas, dans son plan parfait, l'intention de fabriquer des paresseux sur la terre ou des éternels assistés. Non, il provoque la foi. Il suscite la foi. Il te dit, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Oui, je le crois. Alors, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais il est bien conscient que depuis 38 ans, c'est ce que lui n'arrive pas à faire, cet homme. Jésus est bien conscient de cela. Il sait que ce qu'il demande à cet homme ne peut pas le faire. Et il n'a pas été capable de le faire depuis 38 ans. Mais Jésus vient quand même lui dire de refaire la même chose. Et lui rassure qu'aujourd'hui, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'avant, il a essayé de lui-même. Mais aujourd'hui, ça va être sur la parole de Dieu. Avant, il a essayé de s'élever de lui-même. Il n'a pas pu. Il a essayé de marcher de lui-même. Il n'a pas pu. Il a essayé de marcher avec l'aide des médecins. Il n'a pas pu. Il a essayé de résoudre ses problèmes financiers avec l'aide du banquier. Il n'a pas pu. Il a essayé de résoudre ses problèmes de stérilité avec les médecins. Il n'a pas pu. Il a essayé de résoudre son problème de maladie avec les médecins, avec les charlatans, avec les heures de bonne aventure, avec les psys. Son problème de pression avec les psys. Il n'a pas réussi. Et donc, au bout du rouleau, il ne sait plus quoi faire. C'est pour cela que cet homme dit, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne pour me jeter au large. Quand la saison arrive, il n'y a personne. Quand l'ange arrive pour acheter l'eau, la saison est là, il n'y a personne. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas quelqu'un qui pourra te jeter au large quand vient la saison. Quand l'ange arrive pour acheter l'eau, ce n'est pas un homme qui va te jeter au large. Tu vas faire comme les autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour les prendre et les jeter dans la piscine? Tu vas faire comme les autres. Et comme jusqu'à présent, tu as essayé par tes propres forces, tu n'as pas pu. Maintenant, tu vas changer de stratégie. Alors, Pierre a compris. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Tu as besoin d'une parole de Dieu. Quand vient ta saison, tu as besoin d'une parole de Dieu. C'est pour cela que ta relation personnelle avec Dieu est très importante. Parce que c'est dans le cadre de ton intimité avec Dieu que Dieu va te parler. Les 80% de la vie chrétienne ne se vivent pas le dimanche à l'église. Les 80% de la vie chrétienne se vivent dans l'intimité, dans le secret avec ton Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui te voit dans le secret et celui-là, il te le rendra, il te récompensera. Tu en recevras plus dans ton secret que tu n'en reçois dans l'église. Et quand tu viens à l'église, tu viendras pour être encouragé, pour être reboosté, pour être challengé, pour être redynamisé, pour être stimulé. Mais quand tu rentres chez toi, tu as besoin de chercher la parole de Jésus, la parole de Dieu pour ta situation, pour ton miracle. Tu as besoin de chercher. Même quand tu es parti au large, tu as tout fait de tes propres forces. Tu es allé au large, tu es revenu là où tu étais au départ. Mais avec Jésus, quand tu vas faire cela, quand tu vas jeter ton filet sur la parole de Jésus, tu iras au large et tu ne reviendras plus. Alléluia! Et quand tu reviendras, tu ne reviendras pas les mains vides. Tu reviendras avec un filet plein de poissons. Parce que tu as jeté le filet sur la parole de Jésus. Qu'est-ce que je t'entends de dire? Je t'entends de faire comprendre une simple chose. C'est que le combat contre les pensées est réel. Nous sommes quasiment exposés aux pensées négatives, aux pensées mauvaises. Et ces mauvaises pensées sont nées d'où? Sont nées depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger tous les arbres qui sont dans le jardin. Tu peux manger tout ce qui porte de la vie. Tu peux manger l'arbre de la vie. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point et tu n'y toucheras point. Parce que la volonté parfaite de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, n'était pas qu'Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Mais il voulait qu'Adam et Ève mangent l'arbre de vie afin qu'ils vivent éternellement. Et vous verrez même que quand Jésus arrive, la solution qu'il apporte à l'humanité, c'est la vie. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. La solution de Dieu au problème de l'humanité, c'est la vie. Et là où je suis, il y a la vie, le mouvement et l'être. Si tu bois de cette eau, elle deviendra en toi un fleuve d'eau vive qui jaillira dans toute l'éternité. Si tu manges de mon pain, tu vivras éternellement. Si tu crois en moi, tu auras la vie. Tu vivras quand bien même tu seras mort. Le message de Jésus est clair. Le message du royaume est clair. C'est un message de vie. Mais l'homme, malheureusement, n'a pas choisi la vie. Il a choisi le bien et le mal. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une grande différence entre le mal, le bien et la vie. La volonté de Dieu pour toi n'était pas que tu vives dans le bien et le mal. Parce que le bien, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alléluia! La volonté parfaite de Dieu pour toi était que tu vives dans son plan parfait. Que tu entres dans la vie éternelle. Parce que voyez-vous, la vie est supérieure au bien. Mais comme l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité, l'homme a rejeté l'arbre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de vie, c'est simplement la vie de Dieu. Donc l'arbre de vie, c'est simplement la nature de Dieu. C'est la nature divine dans laquelle Dieu a toujours voulu que l'homme puisse vivre. Et c'est pourquoi quand il a créé l'homme, il a dit qu'en fait, il donne en fait sa ressemblance, il donne son identité et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme soit comme Dieu, pour que l'homme ait la nature de Dieu, pour que l'homme soit un être divin, pour que l'homme ait des pensées divines, ait des sentiments divins, les sentiments qui sont en Christ Jésus, pour que l'homme éprouve des émotions divines, que l'homme puisse avoir la vie divine, le sang de Jésus qui coule dans ses veines, que l'homme soit toujours dans la nature de Dieu, laquelle nature ne tombe pas malade, laquelle nature ne tombe pas dans la souffrance, laquelle nature ne connaît pas la difficulté, et que l'homme soit toujours dans la vie en abondance, mais ça pas seulement la vie en abondance, mais la vie éternelle. Maintenant, l'homme a choisi le bien et le mal. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis ce jour, il a rejeté la divinité. Il a rejeté la nature divine et il est rentré dans la nature humaine. Parce que c'est la nature humaine qui contient en elle le bien et le mal. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 7. Il dit bien qu'en fait, il y a au-dedans de moi deux natures. Il y a dans ma nature deux lois. Il y a la loi du bien et la loi du mal. Mais une tendance est claire, c'est que la loi du mal domine généralement sur la loi du bien. Donc la solution, ce n'est pas l'humanité. La solution, c'est la divinité. C'est la nature divine. Et comme l'homme a choisi la nature humaine, depuis ce jour, nous sommes engagés dans un combat contre notre humanité. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 21 nous dit, nous sommes nous-mêmes rendus ennemis de notre propre vie par nos pensées et par nos comportements humains. Et Jésus sur la terre, il a passé toute sa vie, tout son ministère à combattre la pensée humaine. C'est pourquoi il est écrit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Voici l'obstacle qui t'empêche d'aller au large. Ce n'est pas tes comportements. Ce ne sont pas tes comportements. Parce que si tu essaies de résoudre le problème au niveau de tes comportements, tu vas te perdre. Parce qu'il y en a qui essayent d'arrêter de faire le péché, même pendant un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, un an. Mais un an plus tard, comme un effet cyclique, ils retombent dans le même péché. Est-ce que vous me comprenez? Le problème n'est pas le comportement. Le problème, c'est le système de pensée qui est installé au-dedans de l'humanité et qui conduit l'homme à agir d'une certaine façon. Tant que ce système n'a pas été reprogrammé dans la perspective de Dieu, l'homme continuera à se comporter de la même manière, même s'il fait tous ses efforts pour éviter de commettre ses mauvaises actions. Souvenez-vous de l'exemple du feu rouge. Alléluia! Voici notre problème, bien-aimé. Nous avons besoin que le système de pensée humaine qui est en nous soit complètement détruit et reprogrammé et que la nature divine entre en nous. C'est pour cela que nous devons mettre de côté nos principes en nous. Même si ce sont des principes qui sont nobles. C'est bien, mais ce n'est pas la vie. Moi, j'ai toujours été éduqué comme ceci, comme cela. C'est chez nous une marque de respect. Quand on fait ça, voilà, ça veut dire que tu respectes. C'est bien, mais ce n'est pas divin. De toute façon, moi, on ne me parle jamais comme ça. Avant de me parler, de toute façon, déjà, tu te tiens correctement, ok? Et tu n'as pas levé ta main comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est bien, ça te fait respecter, mais ce n'est pas divin. Ce n'est pas ça, la vie. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne font pas de mal, qui ont une bonne moralité, comprenez? Qui sont bien corrects, qui vivent une vie correcte. C'est bien, mais ce n'est pas divin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de vous donner la clé qui vous permettra d'aller au large. Dimanche dernier, Dieu vous a dit que vous allez aller au large. C'est une promesse, c'est une prophétie. Là, je vous donne la clé pour rentrer dans votre saison. Nos pensées, nos raisonnements, nos coutumes, nos traditions, nos cultures, nous devons tous les dépouiller et les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de prendre plein d'exemples, sinon on n'en finira pas. Mais le Saint-Esprit, en cet instant, est en train de vous parler et vous montrer que dans vos cœurs, il y a des pensées, il y a des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Il y a même des cultures qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Il y a des traditions, des coutumes, des scribes et des pharisiens. Il y a le levain des pharisiens. Il y a les œuvres des Nicolaïtes qui sont comme des semences au-dedans de vous que vous avez héritées comme un héritage de vos pères qui ont construit votre identité humaine, qui ont construit votre personnalité et qui s'érigent contre la connaissance de Dieu dans vos vies. Il y a même des philosophies que vous avez apprises à l'école qui s'érigent contre la connaissance de Dieu. Et voici le problème qu'avait Pierre, c'est la pensée humaine. C'est ça qui fait que lorsque Dieu dit « Lève-toi et marche », tu dis « Oh Seigneur, ça fait 38 ans que je suis dans cette situation. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre formule. » Et le cœur humain est à la recherche de d'autres formules. Les gens n'aiment plus la simplicité. C'est tellement simple le message de Dieu. Il te dit « Lève-toi et marche ». L'homme dit « Oh non, attends, c'est trop facile. Il n'y a pas autre chose là, il n'y a pas une feuille. » Qu'on peut aller quelque part, il n'y a pas un morceau de bois, il n'y a pas un panier noir qu'on peut attacher autour des reins, il n'y a pas quelqu'un pour me mettre la main sur la tête pour que je tremble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est simple, la pensée humaine n'accepte pas ça. Mais Jésus a dit, soyez simples comme des colombes. La colombe, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est simple. Et quand tu rentres dans la vie de l'Esprit, tu es simple. Je n'ai pas le temps pour tout vous détailler. C'est tellement fort dans ma pensée. J'ai envie de vous la transmettre. Mais je crois que Dieu vous aide à comprendre. Et j'ai fait confiance à l'Esprit de Dieu, à l'onction qui est en vous, qui vous enseigne quelque chose. Exercice pratique. Quand je rentre chez moi, dans ma relation avec Dieu, devant mon miroir, le miroir de la parole de Dieu,
tu demandes à Dieu de faire un diagnostic de mon état intérieur. Mes pensées, mes principes, mes valeurs, mes coutumes. Oubliez les comportements parce que les comportements sont les conséquences de votre système intérieur. Alléluia. Quand ça va être réglé au-dedans de vous, le reste suivra. Souviens-toi de combien de fois tu as pris des résolutions à chaque nouvel an. Seigneur, à partir de cette année, c'est une année nouvelle. Ma chérie, je te jure que vraiment, tu ne me reconnaîtras plus. Je vais changer. Bon, arrête de boire. Bon, comme c'est le nouvel an, c'est le dernier verre. C'est pour dire adieu à l'alcool. Tu as vu, non, ma chérie? 1 mois, 2 mois, 3 mois. 4 mois, tu replonges. Ce n'est pas faux d'avoir pris des engagements ou encore prêté des serments. Non. Ou conclu des alliances avec Dieu. Le problème, c'est à l'intérieur de toi. Il faut que tu détruises ce rempart-là. Que tu détruises un hôtel, oui. Mais bien plus qu'un hôtel. Que tu détruises une muraille, oui. Que tu détruises en fait ce gratte-ciel qui est érigé comme un monument, une forteresse au-dedans de toi et qui t'empêche de connaître la nature de Dieu. Et tu veux adapter Dieu à ta pensée. Tu as une vision anthropologique de la personne de Dieu. C'est-à-dire que tu vois Dieu comme un homme. Comme Dieu, c'est un homme, alors, comme tout homme, ben, il sait qu'on n'est pas parfait. Comme Dieu, c'est un homme pour toi, eh ben, là où tu te trouves, il ne te voit pas. Comme c'est un homme, il ne te voit pas. Comme la Bible a dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop composée. Ah, donc, tu penses que Dieu est un homme, comme la Bible dit qu'il a une main. Dieu, non. Dieu prend des images simplement pour essayer de décrire, mais on ne peut pas décrire Dieu. L'oreille de l'Éternel, la main de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, les pieds de l'Éternel. Et quand vous voyez ces descriptions de la Bible, ça vous donne comme une image humaine de Dieu, anthropologique de Dieu. Et vous dites qu'en fait, finalement, Dieu est comme un homme. Et on compare Dieu à un homme. Moi, je suis un père. Hein. De toutes les façons, quand mon fils fait quelque chose, je pardonne. Donc, Dieu aussi, en réalité, va pardonner. D'accord. Mais est-ce qu'il est toujours comme ça? Bon, de toutes les façons, on est des hommes. Hein. Quand on arrive, même si j'arrive en retard, bon, on comprend. Est-ce que Dieu est toujours comme ça? Tu alignes Dieu à ton mode de fonctionnement, à ton système de pensée. Et pourquoi toi, tu ne peux pas d'abord quitter tes pensées pour atteindre les pensées de Dieu? Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de tes pensées. Donc, il y a une différence entre tes pensées et les pensées de Dieu. Je vous dis, je ne peux pas vous expliquer cela, mais le Saint-Esprit va vous parler. Alléluia. Et il est en train de vous parler en ce moment. Alléluia. Le Saint-Esprit vous parle. Il met le doigt sur quelque chose. Et je vais terminer en disant ceci. Le fait de ne pas quitter nos pensées pour rentrer dans les pensées de Dieu, c'est un manque de confiance envers Dieu. Dieu t'a dit, abandonne ce péché. Tu dis, bon, Dieu c'est un père. Il comprendra. Quand tu vas quelque part, comme tu ne penses pas que Dieu est omniprésent, parce qu'il est Dieu, tu le prends pour un homme, tu penses qu'on ne te voit pas. Parce que tu as une pensée humaine de la personne de Dieu. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, personne ne te voit. Mais tu oublies que Dieu est présent partout. Et qu'il voit une fourmi noire dans un monde noir sur un caillou noir. Habillé en noir. Vous comprenez cela? Notre pensée humaine nous limite. Et Dieu veut renverser nos limites pour nous mener au large. Dieu veut détruire tout ce qui est limite en nous. Donc, travaux pratiques, toute cette semaine, je liste toutes mes limites. Je prends une feuille, je fais une liste de toutes mes limites qui m'empêchent de franchir le cap, qui m'empêchent d'aller au large, qui m'empêchent de réussir, qui m'empêchent de me lever tôt le matin pour prier, qui m'empêchent de me lever tôt le matin pour faire mon culte personnel et lire la parole de Dieu. Je dresse les limites temporaires. Les limites temporaires, dans le temps, les choses qui m'empêchent de pouvoir aller au large. Je dresse les limites au niveau de ma perspective, au niveau de ma vision. Qu'est-ce qui limite ma vision? Qu'est-ce qui limite ma foi? Je dresse les limites, la liste des limites au niveau de mes objectifs. Qu'est-ce qui empêche que j'atteigne mes objectifs? Je dresse les limites au niveau sentimental. Qu'est-ce qui brouille mes sentiments? Qu'est-ce qui brouille mes émotions? Je dresse les limites au niveau de ma culture. Qu'est-ce qu'il y a dans ma culture comme mœurs, comme us et coutumes et traditions qui m'empêchent réellement d'aller au large et de connaître Dieu qui s'oppose à la parole de Dieu? Et je mets tout ça à la lumière de la parole de Dieu et je compare. Alléluia!
Et quand je compare, je fais la distinction entre les pensées de Dieu et mes propres pensées. Et en ce moment-là, je me lève, je fléchis mes genoux, je crie à l'Éternel, « Seigneur, je demande pardon pour telle chose qui n'est pas conforme à ta parole, qui n'est pas liée à ton système de pensée. Je renonce à cela, Seigneur. Lave mon cœur, lave mes pensées, je me repens. Alors fais en moi une transformation intérieure qu'on appelle la métanoïa. Viens transformer mon cœur, viens transformer mes pensées, viens renouveler mon intelligence. » C'est ça qu'on appelle avancer en pleine eau et jeter le filet. C'est ce qu'on appelle faire tous ces efforts pour joindre à notre foi les vertus de la divinité. Dis à ton frère, tu as quelque chose à faire cette semaine. Ne lui dis pas ça en rigolant, c'est très sérieux. Il s'agit de sa vie, de sa destinée. Il s'agit d'aller au large. Il s'agit de renverser les limites qui t'empêchent d'aller au large. Levons-nous, nous allons prier, bien-aimés. Koreba santakashinte korobo le saintique. Il y en a qui pensent que l'onction fera tout, d'accord. La grâce de Dieu va agir. Ce ne sont que les coups de pouce. Tu as quelque chose à faire. Et cette semaine, tu as quelque chose à faire. Tu as un travail pratique à faire. Tu as des travaux pratiques à faire dans ta vie spirituelle. Et quand tu vas faire cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. Levons-nous, mais je vais prier pour vous avant de vous laisser. Éternel Dieu de Samuel, nous te bénissons ce matin parce que ta parole a sonné dans nos cœurs et a mis le doigt sur les choses qui nous empêchent d'aller au large. Nous voulons, Père éternel, que tu sondes nos cœurs durant toute cette semaine. Que tu nous aides de façon personnelle à dresser une liste avec l'aide de ton esprit, à la lumière de ta parole, une liste de toutes les pensées qui se dressent contre la connaissance de Christ, toutes les forteresses qui sont érigés en nous. Une autocritique, un diagnostic personnel qui ferait en sorte que nous puissions connaître les choses qui nous empêchent réellement d'aller au large. Parce que toi, tu as amené la saison, elle est là. Tu as porté le message pour la saison, elle est là. Tu nous as garanti qu'il y a la provision pour cette saison, elle est là. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, rentrer dans cette saison. Et aujourd'hui, tu nous as montré ce qui nous empêche de rentrer dans les saisons que tu nous amènes chaque fois. Nous voulons, Père éternel, maintenant être délivrés de cette nature humaine, de ce système humain en nous, de ce mode de fonctionnement qui régit nos pensées et qui conditionne nos comportements quotidiens. Afin que, Seigneur, oh Dieu, le royaume des ténèbres soit complètement détruit en nous pour que le royaume de lumière, le royaume de Dieu soit installé dans nos vies. Afin que nos vies changent, que nos comportements changent, que ma façon de voir la vie chrétienne change, que ma façon de prier change, que ma façon de voir la vie chrétienne soit différente, que ma façon de venir à l'église change, que ma façon de voir la parole de Dieu change, que ma façon de pouvoir entretenir mes relations avec les êtres humains change, que ma conception des relations avec les autres change, que ma conception de la vie chrétienne change, que ma façon de servir Dieu change. Que ma façon de vivre ma vie de couple change. Que ma façon d'éduquer mes enfants change. Aligne mon système intérieur à celui de tes valeurs, de tes pensées, à ta parole. Fais ce travail en moi et aide-moi, Seigneur oh Dieu, à coopérer avec toi tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu me rendras fort et que je vaincrai. Je serre cette parole à mon cœur. Afin de ne pas passer à côté de ma destinée. Et je m'engage à la pratiquer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.